Vous êtes sur RTL.
RTL Matin, 3 minutes pour comprendre.
Bonjour Gaël Leroux.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes chercheur au CNRS, au laboratoire écologie, fonctionnelle et environnement. Vous êtes l'auteur de cette étude étonnante. Alors d'abord, un mot sur la méthode. Comment avez-vous recueilli ces échantillons, puisqu'il s'agit de particules de microplastique, hein, je l'explique, donc invisibles a priori à l'œil nu.
Oui, donc nous avons travaillé dans les Pyrénées, dans une région de la Haute-Ariège, à côté de l'Andorre, et nous avons collecté des échantillons de pluie et de neige à l'hiver 2017-2018.
Oui.
Et puis nous avons analysé ces microplastiques à l'aide d'instruments qui, pour faire simple, tapent avec un laser et récupèrent un signal qui nous permet de détecter quel est ce plastique, du polystyrène, du polyéthylène, donc les différents types de plastique qu'on peut utiliser tous les jours.
Quand on parle de fragments de plastique, maintenant que vous nous avez expliqué la méthode, Gaël Leroux, ce sont des résidus de sacs, d'emballages, c'est ça ?
Alors oui, c'est principalement des plastiques, soit sous forme de fibres, sous forme de particules, qui sont issus de la dégradation de plastiques à usage unique. Donc, par exemple, les plastiques alimentaires et les sacs, oui.
Ça inclut les sacs poubelles, par exemple ? Les sacs de supermarché aussi ?
Oui, ça inclut les sacs poubelles et les sacs de supermarché. Il faut bien imaginer que c'est une dégradation très lente hein, quand même. Donc ça peut être des plastiques qui ont été émis dans l'environnement il y a plusieurs années et qui ont mis du temps à se dégrader, qu'on retrouve après dans les montagnes.
Je cite le communiqué. Les chercheurs ont décompté un dépôt de plus de 365 particules de microplastique par mètre carré par jour. À quoi ça correspond concrètement et qu'est-ce que ça veut dire ? Vous êtes le seul en quelque sorte à l'avoir vu et à pouvoir nous le décrire.
Alors, concrètement, ça sous-entend que les niveaux de plastique qu'on retrouve dans les montagnes, là, à 1000 mètres d'altitude, 1500, 1800 mètres d'altitude, c'est des niveaux de plastique, d'intensité de pollution plastique qu'on retrouve dans des grandes métropoles comme Paris ou des villes chinoises. Donc c'est ça qui était vraiment étonnant dans cette étude, c'est qu'on a montré l'intensité d'une pollution qui était similaire à celle qu'on retrouve dans les grandes villes.
Une pollution équivalente à celle des grandes villes dans nos montagnes et dans la neige.
Voilà, avec le fait que la région était entourée de neige, donc on imagine un transport longue distance, c'est-à-dire que les plastiques ont été transportés sur plusieurs dizaines, centaines de kilomètres et atterrissent ensuite via la neige et la pluie dans les écosystèmes de haute altitude.
Alors, c'est évidemment la question qu'on se pose tous, et même la question principale, comment ces morceaux de plastique, donc invisibles à l'œil nu, sont-ils arrivés dans nos montagnes ? Par quels moyens, en quelque sorte ?
Ils sont simplement transportés par le vent. On connaissait ce type de phénomène, par exemple les fameuses poussières sahariennes qui colorent en rouge les neiges des Alpes et des Pyrénées. Et ces fragments sont aussi de la taille du micromètre, hein, c'est-à-dire en dessous le millimètre. Et on pouvait se douter que ces plastiques soient transportés de la même manière des grandes villes jusque dans les Pyrénées. Mais par contre, on n'imaginait pas que ça puisse transporter une quantité aussi importante.
On sait d'où viennent, enfin, est-ce qu'on comprend l'orientation ? Tout s'explique par les phénomènes de vent, et donc d'une certaine façon, n'importe quelle grande ville qui entoure les Pyrénées pourrait contribuer à cette pollution ?
Alors bien sûr, il y a les grandes villes, hein, parce que voilà, je vous parlais des niveaux relativement similaires dans les grandes villes et dans les montagnes, mais on peut imaginer aussi d'autres sources de plastique, comme les décharges, ou bien même encore des fois les activités agricoles, hein, avec les bâches agricoles qu'on met par exemple sur les sols agricoles.
Tout ce que vous nous annoncez est très perturbant, on en arrive à la dernière question, c'est quel est selon vous l'impact sanitaire de ce plastique pour notre santé et puis pour la biodiversité tout simplement, puisque on le sait aujourd'hui très clairement, nous sommes une chaîne du vivant.
Alors bon, là, il y a vraiment de nombreux projets qui sont en cours et donc c'est vraiment des questions qui restent en suspens. Mais on peut imaginer, par exemple, on retrouve des fibres de plastique dans l'air et ces fibres de plastique sont facilement inhalables dans les poumons.
Oui.
Et de la même manière, les particules, microparticules, peuvent se dégrader en nanoparticules et là, elles peuvent être intégrées à des organes très sensibles comme le foie, que ce soit le foie humain ou le foie de poisson, par exemple. Donc ça a vraisemblablement un impact sur les écosystèmes et sur la santé humaine. Et c'est quelque chose qui reste encore à découvrir et il y a de nombreux projets menés par les chercheurs à l'international sur ce type de questions.
Eh ben on va bien entendu suivre l'avis de ces études. Merci beaucoup Gaël Leroux. Je rappelle que vous êtes chercheur au CNRS, au laboratoire écologie fonctionnelle et environnement. Bonne journée à vous et puis merci à Patrick Tégéraud qui, une fois de plus, était à vos côtés pour nous permettre de faire cette liaison.
Yves Calvi, RTL Matin.
Pour tout comprendre de l'actualité.